C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour pour vous parler de football et de cette Coupe du Monde 2019, le D-Day des Américaines. C'est aujourd'hui en Champagne. Les stars de la compétition, les championnes du monde en titre, les joueuses des États-Unis entrent dans cette compétition à Reims face à la Thaïlande. Une rencontre déséquilibrée comme on dit, mais une occasion de parler du soccer féminin aux States. Alors que les championnes d'Europe, les Néerlandaises, viennent de remporter leur premier match face aux Néo-Zélandaises, beau scénario. Faites votre marché, le mercato est ouvert depuis 0h et les ventes et les échanges de joueurs se feront pour les clubs français jusqu'au 2 septembre, comme en Allemagne ou en Espagne, alors que les Anglais les limiteront ces échanges et ces ventes à la reprise de la Première Ligue. Andorre, petite principauté pyrénéenne, l'île de Malte, le micro-état de Saint-Marin, le territoire britannique de Gibraltar, tous ces petits poussés participent aux éliminatoires, mais des éliminatoires européens où ils font figure de punching ball des grosses écuries. Quelle utilité pour ces faibles équipes? Doit-on encourager un premier tour, un écrémage préliminaire avant qu'elle ne rencontre les grosses équipes? Eh bien, nous en parlerons. En tout cas, à Andorre-la-Vieille, les Bleus espèrent bien profiter de la faiblesse de leur adversaire d'un soir pour se racheter et remporter 3 points. Voyons s'ils les remporteront, n'est-ce pas, Marc Libra, bonsoir.
Bonjour Annie, bonjour à tous, j'espère bien.
Hein, vendredi soir, on parlait de match piège, c'est vous qui nous aviez mis en garde, et eh bien ça a fonctionné, le piège.
C'est dommage.
Gilles Verdez, bonsoir.
Bonjour.
Bonjour, bonsoir, oui. Il fait tellement sombre dehors qu'on a l'impression que
comme vous voulez,
c'est déjà l'émission
tout me va.
Du soir. On en fait 2 par jour en ce moment, ça nous trouble. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Naïm Moniol qui est avec nous aussi, et puis Laurent Salerno est à la réalisation, et Pierre Guérin veille. Pour préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti.
We're excited. It's finally here. We've been counting down the days since our last World Cup.
Our job is that first game.
There's no holding back. It's full throttle.
Un D-Day, mais un D-Day très pacifique, hein, ce jour le plus long. Allusion cinématographique, bien sûr, mais là, il n'y a pas d'opération Overlord pour les Américaines. Même si c'est dans une ville historique de la Deuxième Guerre mondiale, celle où fut signée la reddition de l'Allemagne nazie face aux Alliés il y a 74 ans, qu'elles joueront ce soir. C'est dans la ville de Reims, capitale de la Champagne. Elles débarquent donc dans la compétition, ces Américaines, avec le Fighting Spirit qui peut animer des championnes venues défendre leur titre mondial gagné en 2015. Leurs adversaires d'un soir, les Thaïlandaises, 34e au classement FIFA, risquent de passer un sale quart d'heure et nous verrons cela. D'autant que les États-Uniennes, eh bien, veulent conserver leur titre, bien sûr. Et ces paroles de capitaine, Alex Morgan.
Like number one ranking and on...
Être numéro 1 au classement et avoir été pionnière dans le foot féminin fait que l'on attend beaucoup de nous. Nos fans aussi veulent nous voir aller loin. Nous sommes vraiment fiers de faire partie de cette histoire et nous voulons faire du mieux possible dans ce tournoi. Aller jusqu'en finale fait partie de notre état d'esprit. Il faut croire que nous irons au bout. Cela nous a été transmis par la génération de 1991 et les générations qui ont suivi.
Et oui, leur histoire aux Américaines, ce sont 3 titres de championne du monde, hein, 91, la première coupe du monde de la FIFA féminine, ensuite 99 et puis donc la dernière 2015 au Canada. Une team USA qui en plus, Marc Libra, compte 12 des dernières championnes du monde dans son équipe, ça fait fort.
Ça fait fort, mais mais surtout leur, je crois que c'est Ellis, Jill Ellis, qui a vraiment depuis 2015 changé littéralement, puisqu'aujourd'hui la presse américaine nous explique que quoi qu'il arrive, elle a fait des choix de mettre de la jeunesse, de nouvelles jeunes filles qui arrivent très prometteuses, mais c'est peut-être pas assez. On va se rappeler que l'équipe de France a quand même battu les États-Unis 3-1 il y a quelques semaines, ce qui n'était pas arrivé récemment.
C'était
ça a montré quelque chose. Comment ?
C'était pas un match officiel non plus.
Ah, mais alors, donc, alors, un match officiel, ça compte pas. Un match officiel, ça compte. Non. Il faut juste.
Marc, je te dis pas que juste... ça compte pas. Je te dis pas que ça compte pas. Je ne minimise pas la victoire de l'équipe de France. Je te dis simplement qu'entre gagner un match amical et gagner potentiellement un quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas la même. Tu le sais, en plus.
Ah, mais je sais bien. Mais voilà. Si déjà on n'arrive pas à gagner ces matchs amicaux, qui sont très importants, parce que les États-Unis, femmes, c'est quand même la référence ultime. Je vais juste expliquer que dans les années, si je peux finir, Naïm, s'il te plaît, si tu coupes à chaque fois, tu fais l'émission et puis je m'en vais, à chaque fois, bon, passons. En 90, moi, je suis jeune joueur de foot, je vais aux États-Unis. Pour la première fois de ma vie, j'ai la chance, je vais aux États-Unis. Qu'est-ce que je vois sur les buildings, dans les grandes marques? Je vois des joueuses de soccer, des femmes. Mm-hmm. Alors qu'en France, on ne parlait même pas de football. C'est-à-dire qu'on était déjà en avance de quelque chose. Première Coupe du Monde, c'est vrai, en 91, celle qui la gagne, 99, mais c'était déjà une référence. Donc aujourd'hui, les États-Unis, Naïm, sont vraiment la référence. Donc mais quand c'est un amical que tu es français et que tu arrives à les battre, on peut pas dire ah mais c'est un amical,
rassure-moi,
c'est pas dur.
Marc, rassure-moi, t'as pas menacé de quitter l'émission juste pour dire un truc qu'on savait déjà.
Ah ben je sais pas.
Moi je pensais que t'allais nous révéler un truc énorme. Tu me dis parle pas, je vais finir. Tu nous dis un truc qu'on sait tous.
Mais il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas au courant des choses.
Bien sûr que si, tout le monde sait que c'est la référence, les États-Unis en matière de football féminin. Mais bien sûr.
Ah d'accord.
C'est pas un secret, bien sûr, évidemment qu'ils sont là.
Bah donc c'était pas mal de les battre en match amical.
Mais c'est très bien des matchs amicaux. Ce que je dis simplement, c'est que si on commence à dire ah ben on a battu les États-Unis en match amical, donc c'est bon machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les États-Unis ont perdu en match amical contre la France. Si la suite de la compétition fait qu'on les joue en quart, bah vous verrez que c'est pas la même chose.
Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est plus forcément, même si c'est une nation majeure, on peut dire que les États-Unis sur le match 3-1, il y a quand même des flottements parce que défensivement, ce n'est plus les États-Unis qu'on a pu connaître.
Sauf qu'attention.
Karin Lloyd, aujourd'hui, qui est pour moi une référence en milieu de terrain, ne jouera peut-être pas forcément parce qu'elle a un certain âge aujourd'hui. Alias Mangan, Rapinoe a un certain âge aussi. Donc la jeune génération doit se mettre en avant pour essayer de gagner les États-Unis.
Mais les États-Unis tournent énormément dans les matchs amicaux. Attention.
Il y a un mélange, effectivement, des générations. Et sans doute, on parlait hier des Japonaises où Salim Bongali nous rappelait que les Japonaises, elles perdent tous leurs matchs avant une compétition, mais parce qu'elles font,
sous la forme de tests. La différence, c'est que les États-Unis, elles ont 60 joueuses qui peuvent jouer en équipe nationale, quand la France, elle en a 15, 16, 17. C'est aussi pour ça qu'il y a une phase de test et que les effectifs tournent beaucoup et que ces équipes-là peuvent perdre des matchs amicaux.
Gilles.
Alors, de mon point de vue, il y a quand même l'ombre d'un doute sur cette sélection américaine. Effectivement, éventuellement une phase de transition. Je vais dire une banalité, mais une série, elle est jamais aussi proche de se terminer que quand elle a duré longtemps. Donc, à un moment, leur hégémonie va finir. Et peut-être que c'est l'année où cette hégémonie va se briser. Il y a un conflit avec la fédération, il y a des problèmes en interne. C'est quand même plus une ambiance, une unanimité comme il y avait. Certes, bien entendu, le football féminin reste emblématique aux États-Unis, davantage que le football
beaucoup
masculin,
plus, oui.
Beaucoup plus, 16 millions de pratiquantes. Mais il y a un doute sur la qualité intrinsèque de cette sélection. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme on l'a dit pendant très longtemps, les Américaines vont aller en finale et sans doute s'imposer.
Il y a
d'abord ce match qui sera couperet face à la sélection française. Et pour ces Américaines-là, on voit aussi à l'intérieur.
Ça sera si on se qualifie.
Je pense quand même. Il y a moins de surprises quand même, non, globalement.
Mais
franchement, moi, la presse américaine aussi dit que peut-être, c'est une sélection qui n'a plus autant de repères qu'elle avait.
En tout cas, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que c'est quand même une référence, dans le sens où vous le disiez, Marc, que vous avez déjà vu ces joueuses il y a plusieurs années. Voilà, en publicité. Mais surtout, on a fait un choix, effectivement, là-bas aux États-Unis. On a misé et on voit que ce sont des joueuses qui sont professionnelles. On voit que ce sont des joueuses donc qui gagnent leur vie à ça. Les universités, on connaît aussi le système des universités.
Ce que fait l'Olympique Lyonnais, les États-Unis le font depuis 30-40 ans. Donc, le système OLAS qu'il a mis en place par rapport à ses filles, aujourd'hui, OLAS en tire les bénéfices de tout. Mmh. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur toutes les Coupes du Monde, on va être sur la 8e Coupe du Monde, sur les 7 précédentes, ils sont toujours sur le podium. Hein. Et ils ont eu un passage à vide entre 99 et 2015. Mmh. Donc, je veux bien qu'on me dise, on les voit pas arriver au bout. Mais attention, aujourd'hui, certes, il y a des nations qui commencent, qui sont pas mal. On va voir là, par rapport à l'Allemagne, il y a pas mal de choses.
L'Europe,
aujourd'hui, de ne pas sous-estimer, parce que tout le monde nous dit, mais les États-Unis, ah ben c'est sûr, les Big Stars sont partis, Abby Wambach n'est plus là. dans le top des...
Mais il y en a, il y en a d'autres. Mais justement, peut-être une question, Naïm. Est-ce qu'il y a d'une certaine façon un nivellement, peut-être pas les Américaines qui baissent parce que elles, non, à la limite, elles pourraient avoir un creux générationnel, mais justement des niveaux qui peut-être se rééquilibrent.
C'est l'Europe, parce que l'Europe travaille bien, souvent sur le modèle américain. Il y a quelques années, vous aviez les pays scandinaves, mm-hmm. après vous avez eu la France et l'Allemagne, puis maintenant vous avez l'Angleterre et les Pays-Bas. Donc il y a évidemment le niveau européen, même l'Italie qui revient bien. En plus, vous avez le niveau européen qui augmente parce que les joueuses américaines sont aussi venues jouer dans les clubs européens, parce que les clubs français ont pris modèle sur ce qui se faisait aux États-Unis.
Les Américaines viennent jouer en France.
Donc évidemment que le niveau européen s'équilibre avec les États-Unis, ça ouvre un peu plus la compétition, évidemment.
Mm-hmm. À un moment, le championnat américain féminin était non plus la référence, mais le modèle unique. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de concurrence. Et aujourd'hui, les compétitions européennes sont peut-être pas de niveau totalement équivalent, mais presque. C'est-à-dire que la Ligue des champions féminines, les championnats nationaux maintenant, même s'ils sont déséquilibrés, mais les équipes de tête de ces championnats européens peuvent concurrencer les grandes équipes américaines. Donc, effectivement, le niveau européen est en train d'augmenter considérablement.
Là où il y a quand même une limite dans ce championnat américain féminin, c'est que pendant très longtemps, les joueuses étrangères qui venaient étaient très mal intégrées, avaient beaucoup de mal à percer, beaucoup de mal à réussir. Elles venaient, elles faisaient une saison et elles repartaient. C'était très rare de voir une joueuse étrangère s'imposer vraiment. Martha est compliquée avec les continents. Donc,
j'ai un exemple.
Beaucoup de joueuses françaises, allemandes, tout ça, qui ont été Amandine Henry, notamment à Portland, qui vont une saison et puis qui reviennent derrière parce que c'est compliqué quand vous n'êtes pas américaine de s'intégrer à ce championnat.
Mais Alex Morgan est venue ici quelques mois, elle est repartie. Aussi, elle a peut-être eu du mal à s'habituer à l'OL. En tout cas, aux États-Unis, revenons un petit peu à ce modèle peut-être. On voit que les filles, elles jouent dans des stades qui sont pleins. À Portland, justement, je voyais un reportage récemment, c'est 18 000 spectateurs à chaque match. C'est un sport très très organisé, mais c'est là où justement elles revendiquent parce qu'elles font, elles ont un plus beau palmarès que les hommes. Exactement. Elles revendiquent l'égalité. Est-ce que c'est logique selon vous?
Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît très logique puisqu'il y a quelques semaines, alors certes, il y a un règlement FIFA qui est imposé où les hommes n'ont pas laissé pour deux nuitées les filles en préparation de Coupe du Monde. Alors on nous a dit oui, mais il y a un règlement. Enfin, s'il y a un règlement, c'est bien gentil, mais nos filles préparent une Coupe du Monde. Je pense que ça aurait été sympa de les laisser. Rappelez-vous de ce petit fait. Ou alors, c'est vrai qu'elles étaient juste à côté.
Oui, à Clairefontaine. Oui.
À Clairefontaine.
Non, mais là, je parlais surtout des Américaines par rapport au salaire. Elles revendiquent
par aux Américaines
les primes, les salaires, les infrastructures, les avions affrétés. C'est
Alex
tout ça qu'elles
réclament. Alex Morgan est une big star. Oui. Mais elles sont partout. C'est-à-dire que vous allez à Portland, vous allez à New York, vous allez à Chicago. Les filles sont présentes, ultra présentes. Alors, par rapport au
soccer, elles gagnent de l'argent peut-être sur leur image aussi.
Mais beaucoup. Mais ils ont su en tirer les bénéfices de tout. Donc, oui.
Les femmes, les footballeuses féminines incarnent aux États-Unis aussi une sorte de mouvement d'émancipation de la femme, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle social, sociétal, sociologique très important. Donc de mon point de vue, elles doivent aussi maintenant avoir cette reconnaissance économique.
Mais comme elles sont payées, c'est dans beaucoup de pays, parce que hier on entendait les Argentines, elles disaient ça aussi par exemple.
Bien
et là c'est dans un pays beaucoup plus macho.
Mais aux États-Unis, nous sommes à l'aboutissement de ça et les performances sportives, contrairement à l'Argentine, j'espère que les performances sportives suivront, mais aux États-Unis, les performances sportives sont avérées. Donc elles doivent être reconnues comme elles sont payées par leur fédération. Contraire des hommes qui sont payés par le privé, c'est plus compliqué.
Mais je pense qu'elles
doivent continuer à manifester, bien sûr.
Gilles, qu'elles manifestent pour avoir les mêmes salaires, les mêmes primes, je veux bien, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on parle de l'égalité salariale homme-femme dans le foot, c'est pas le même modèle économique. C'est surtout ça, c'est que quand vous avez des marques privées qui peuvent payer des hommes, vous avez des primes à 300 000 balles. Quand c'est la Fédé, vous avez des primes à 4 000 balles. Mais ça, c'est dans n'importe quel pays. En privé, ça paye toujours plus que les fédérations, que les structures étatiques.
Il y a beaucoup de stars dans cette équipe américaine. On citait Alex Morgan, la Californienne. Elle a déjà marqué 102 buts. Surtout, elle gagne 450 000 dollars par an à Orlando Pride, là où elle joue. Mais elle a surtout 6 millions d'abonnés sur Instagram. Et ça rapporte de l'argent. Elle en a 3,5 millions sur Twitter. Qui est, pour vous aussi, il y a Carly Lloyd, dont on parlait. Elle aussi, véritable légende. Quatrième Coupe du Monde. Elle a 36 ans. Et puis, il y a Megan Rapinoe, avec sa chevelure rose, qu'on remarquera toute ce soir sur la pelouse. C'est laquelle, pour vous, celle qui impacte le plus?
Bah, pour moi, au niveau de la reconnaissance qu'elle réclame et qui, de mon point de vue, est légitime, au niveau de l'impact sur la société américaine, c'est Rapinoe, parce qu'il y a un côté, justement, qui, moi, me plaît, ouverture aux réseaux sociaux absolus. C'est-à-dire que c'est une sorte d'incarnation de la figure féminine moderne, pour moi, en dehors de la sportive extraordinaire. D'autres aussi. Mais elle, je trouve qu'elle est totalement figure emblématique de l'année 2019.
Carly Lloyd est une historique de l'équipe. Une historique, c'est dans la continuité d'une Wambach ou d'une Mia Hamm, qui était une des premières pionnières du foot soccer féminin aux États-Unis. Lloyd, c'est une référence, elle a un palmarès, elle pèse, elle fait justement le lien avec cette nouvelle génération, elle encadre bien. Donc Carly Lloyd, c'est grosse star.
Miam, pour moi, est la référence années 90, c'était elle qui était sur des immeubles de 30 étages. C'est-à-dire que je suis arrivé avec, elle avait un gros sponsor, bien sûr, américain, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai découvert ça puisque les filles jouent à des périodes bien précises. Donc, j'avais pu voir assister à des matchs à l'époque. C'était très impressionnant. Après, il y a eu Amy Wambach, qu'on le veuille ou non, quand on met 187 buts avec la sélection. On est la référence ultime. Carly Lloyd, rappelez-vous, en 2015, c'est elle qui met 3 buts. Enfin, elle s'est pliée au bout de 22, 23 minutes. Le match, il est plié face au Japon. C'est des références. Et puis maintenant, est-ce que c'est Alex Morgan? Et il y a la suite qui arrive, puisque encore une fois, l'entraîneur a mis une jeune génération pour pouvoir continuer pour avancer.
Évidemment. Alors, l'autre poids lourd a disputé leur premier match. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des équipes venues du nord de l'Europe, respectivement 8e et 9e au classement FIFA. On a les Pays-Bas et puis la Suède. En tout cas, pour ce qui est des Pays-Bas, eh bien, les filles championnes d'Europe en titre depuis 2017, eh bien, elles ont justifié leur titre.
Van Dongen est là. La numéro 4 qui va centrer de son pied gauche. Attention à Berenstein. La tête, elle est gênée. Et le ballon qui termine en fond des filets. C'est Rand au bout du bout qui délivre les Pays-Bas. Qui vont peut-être sortir sans poser un 0.
Énormément de supporters qui les ont suivis dans les rues du Havre. On les a vus sur les réseaux sociaux. Alors, on peut penser que c'est aussi le phénomène comme les hommes. Hein. Les hommes qui, quand ils se déplacent, je me souviens au Brésil, la Coupe du Monde 2014, où ils étaient là avec leur autobus à Impérial, orange, qui se baladait dans les petites rues historiques. En tout cas, ce but, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, Marc, ce but, oui. Parce que il a surgi à la 92e minute.
C'est additionnel, mais c'est le but
qui tue.
Là, le but qui fait du mal. Après, on a eu une très bonne rencontre, puisqu'il y a eu quand même une transversale aussi de l'autre côté. Ça a été très chaud. Pas mal de ratés aussi, mais qu'on se rend compte que quand on n'arrive pas à marquer rapidement, il y a des équipes qui font bloc. On l'a vu sur cette Coupe du Monde, on a vu, pareil, le Japon accroché aussi. On a vu l'Italie, la surprise de l'Italie aussi. Donc, c'est de plus en plus difficile. Certes, elle pratique pour moi un très beau jeu. C'est souvent au sol. C'est toujours très bien construit.
C'était intense, hein.
C'était intense. Et elles sont arrivées au bout de, au bout du bout. Elles n'ont pas lâché. Et à l'arrivée, c'est une belle victoire qui fait du bien pour entrer dans la compétition.
On le voit y arriver, ce but, parce qu'elles ont pas mal bataillé devant.
Ça montre tout le niveau aussi de la Nouvelle-Zélande, mais globalement le foot océanique féminin est un football de qualité, Australie-Nouvelle-Zélande, parce que normalement les Pays-Bas c'est énorme attaque, Van de Sanden, Likens, Miedema, ça fait partie des meilleures attaquantes européennes, et les trois alignées ensemble. Donc bon, si Sanyo gagne 15-0, ça prouve aussi que le match a dû être disputé et que la Nouvelle-Zélande est une belle équipe.
Gilles. Il y a eu notamment côté néo-zélandais, White, qui a eu plusieurs occasions, elle est sortie à la 75e, elle a eu plusieurs occasions. C'était un match très important parce que ces deux équipes qui ne réussissent pas en Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande y domine l'Océanie, mais en Coupe du Monde, il cale toujours. Oui. Et puis les Pays-Bas, championnes d'Europe, mais une fois seulement qualifiées en huitième, qui n'arrivent pas en Coupe du Monde. Donc là, elles ont pris un ascendant très important dans ce groupe. Ça peut être des équipes intéressantes. Et quand on dit parfois que le niveau du football féminin n'est pas encore totalement homogène, ce match démontre le contraire. Ce succès populaire que vous soulignez à juste titre démontre le contraire. Et les succès télévisuels également.
Les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est les deux équipes qui viennent sur les 2-3-4 dernières années qui viennent au très haut niveau, parce que les pays scandinaves, on le sait depuis longtemps, la France et l'Allemagne, ça a toujours bien travaillé, surtout l'Allemagne depuis longtemps. Les Pays-Bas et l'Angleterre, que ce soit en équipe nationale ou en championnat, ce sont deux nations montantes du foot féminin.
Et c'est pour moi la plus belle publicité du foot féminin, c'est de voir ce genre de match. C'est engagé, c'est total, il n'y a pas de tricherie, on a eu du rebondissement, on a eu du suspense, et c'est franchement, c'est plaisant de regarder ça. La plupart des gens, je vous le dis, découvrent le football féminin, on l'a vu, on a entendu des choses, certains n'avaient jamais vu de match. Et bien, quand on voit ce genre de choses, on se dit, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est simple, c'est bien, c'est joli et tout se passe bien, bravo.
Beau spectacle.
Ouais.
Vous faisiez allusion aux pays scandinaves et donc à la Suède. La Suède qui rencontre, alors elle a été une fois championne d'Europe, c'était il y a bien longtemps, 1984, finaliste de la Coupe du Monde en 2003, troisième en 2011.
En 2011.
Ouais. En 2011. Pardon. Et éliminée en huitième, justement, ouais, en 2015. En 2015 et c'est pour ça que là, elles viennent avec un petit désir de se faire remarquer. Elles n'ont plus leur grande joueuse qui a été Lotta Schelin, effectivement. Elles se retrouvent face à des Sud-Américaines débutantes. Alors, hier, on avait des Argentines débutantes. Là, ça sera des Chiliennes débutantes.
Ouais, alors les Chiliennes, elles sont finalistes de la Copa América 2018. Ouais. On connaît la gardienne parce qu'elle joue au PSG. Après, c'est grosse inconnue, mais comme beaucoup de nations sur le continent sud-américain, parce qu'on sait que le Brésil, c'est au-dessus. Que deux, trois étages en dessous, vous avez le Chili, la Colombie. Puis l'Argentine, bah, vous voyez, pendant deux ans, entre 2015 et 2017, ça joue pas. Donc, c'est très difficile d'établir vraiment le niveau de cette équipe. Individuellement, je parlais de la gardienne. Il y a la milieu Adeo qui joue au pays, qui a été meilleure buteuse, co-meilleure buteuse de la dernière Copa América 2018. Pour le reste, évidemment que la Suède est favorite, mais parce qu'on n'a pas réellement de référence dans le jeu sur ce que vaut le Chili. À mon avis, grosse équipe en termes d'engagement de Grinta comme l'Argentine face au Japon. Dans le jeu, je pense que c'est quand même un ou deux crans en dessous de la Suède.
Gilles. L'incertitude du Chili, c'est effectivement auréolé de cette finale de Copa América. On pouvait s'attendre à une équipe, je dirais, sur une dynamique presque de succès. C'est sa première phase finale, mais les matchs de préparation étaient calamiteux, puisque sur les 13 matchs amicaux, 9 défaites, un seul succès. Ça augure quand même de certaines difficultés. Il y a eu des problèmes d'organisation. Tout n'est pas absolument rose dans cette équipe du Chili.
Le souci, c'est que, contrairement au Brésil, ces joueuses-là ne s'exportent pas. En fait, c'est ça, c'est que tu as très très peu de joueuses qui évoluent dans les gros championnats, dans les grosses équipes, alors qu'au Brésil, c'est un peu comme les Danoises et les Norvégiennes. Tu vas à Chelsea, à Barcelone, à Lyon, à Paris, t'en as partout.
Comme chez les hommes. Bon ben voilà pour ce qui est de cette Coupe du Monde 2019, que l'on suit donc avec attention dans Radio Foot International. L'argent ne fait pas le bonheur, ah non? Eh bien, dans les clubs, en tout cas, je pense que on pense pas comme ça. Chaud devant le mercato d'été, de l'été 2019 promet, eh bien, d'être très mouvementé. En tout cas, il est ouvert depuis, eh bien, une vingtaine d'heures. Et l'impression, eh bien, que ça devient la coutume des perspectives mouvementées. Après, on verra évidemment ce qui peut se passer. Les clubs français ont en tout cas 2 mois et demi pour faire leurs emplettes jusqu'au 2 septembre minuit. Alors, peut-être une des questions, parce qu'il a été le prix Marc-Vivien Fauré, c'est autour de Nicolas Pépé, la vedette du championnat de France, la révélation, en tout cas, jeune attaquant ivoirien, révélation et confirmation, surtout durant la saison. Lui, il s'entraîne avec les éléphants en ce moment, il y pense pas, mais il a 3 agents qui doivent y penser. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Nicolas Pépé? Quelle somme et quel club? Allez, faites des paris.
Alors, une somme, c'est au-dessus de 50. Parce que vu les prix du marché actuel et vu sa saison, c'est plus de 50, je
mais
pense.
Mais 50 ou 100 ?
Entre 50 et 100, on va dire. Plus près de 50 que de 100, quand même, je pense. C'est quand même un jeune joueur. Il a aussi besoin de confirmer dans une autre équipe. Donc, au-dessus de 50, parce que les prix du marché font qu'un joueur de cette classe ne peut pas partir en dessous. Les potentiels, il a un jeu quand même très rapide, très rapide. Moi, je le vois bien soit en Allemagne, soit en Angleterre. Il y a d'ailleurs le Bayern et Liverpool qui sont un peu positionnés dessus. Pour être très sincère, je suis pas dans le secret des yeux de ses agents, je peux pas vous dire dans quel club il va aller, mais on sait que ça va être un beau club, un gros club, un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Le Bayern et Liverpool, un temps, avaient quand même mis des billes dessus.
Mais Lille joue la Ligue des Champions.
Alors moi, Gilles, je mettrais ça plus près de 100. Hein. Le marché va être fou pour certains joueurs, notamment les buteurs. C'est-à-dire qu'il y a une chasse aux buteurs. On a l'impression que le fair play financier, c'est une ancienne idée, etc. Que les prix flambent, on ne sait plus où ça va s'arrêter. À mon avis, ça peut atteindre 80 millions. S'il y a une concurrence, par exemple, entre deux clubs anglais, imaginons qu'il y ait Liverpool et pourquoi pas Tottenham ou Arsenal, à ce moment-là, les prix peuvent flamber. Ça peut atteindre 80.
Hein. C'est tout dépend aussi de la qualité de ses agents aussi.
Parce il en a 3. Donc
oui, mais c'est peut-être 3 pipes.
Là,
tu sais pas.
Là aussi, ça va faire de la surenchère. Marc, Nicolas Pépé, c'est vous l'achèteriez?
Ah, si je suis un club anglais, oui, ça peut m'intéresser. Après, je pense qu'il va atteindre les 100 sans problème parce qu'aujourd'hui, un buteur est une denrée rare. Tout le monde cherche le buteur. Donc, quand il y en a un et qu'il est capable de marquer, qu'il est capable de faire jouer ses camarades à côté, parce qu'on l'a vu, c'est pas que lui. Rappelez-vous, c'est la fameuse Bamba, Ikoné et lui. Donc, c'est pas. On peut se rendre compte que c'est pas forcément. Il y a des joueurs comme Higuain va faire la différence entre guillemets Higuain. Là, il est capable de faire jouer les autres et bien les faire jouer. Donc aujourd'hui, un club anglais ne va pas s'arrêter à 50 ou anglais à 50 ou 60. C'est-à-dire que ça peut monter, mais très violemment. On voit certains transferts aujourd'hui. Alors si on prend référence à Hazard, ça fait beaucoup plus longtemps. Il a pas le même âge. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, 80, 90, 100 millions. Mais je pense qu'on va les atteindre.
N'oublions pas quand même qu'il a flambé à Lille. Alors Lille fait une très belle saison et qu'il se qualifie en Ligue des Champions, mais il n'a pas flambé dans un très gros club. Et là, là où les gros clubs vont être récalcitrants à mettre de l'oseille,
pensons à Eden Hazard qui avait flambé à Lille.
Oui, mais Lille avait été champion de France. Et Eden Hazard avait quand même, avait quand même prouvé sur plus d'une saison.
Oui,
Je suis pas en train de
vous mettez des bémols, je comprends bien, mais c'est vrai que par exemple, on peut se dire que si on enlève le PSG, bah Lille est, est sous champion de France.
Oui, sous champion de France.
Effectivement, moi je suis d'accord avec vous, Annie. Il y a la jurisprudence Hazard. Mm-hmm. C'est un joueur qui a également très bonne réputation parce que maintenant ça joue beaucoup. Et surtout, pour aller dans le sens de ce que disait Marc, aujourd'hui, les clubs qui se disent j'investis 80, 90 millions ou 100 pensent déjà dans deux ans à une éventuelle revente. Et Pépé, contrairement à un joueur beaucoup plus âgé, peut se revendre. Donc non seulement vous avez potentiellement pendant deux ans un buteur, il n'y en a pas beaucoup, et vous pouvez déjà imaginer que le Real de Madrid ou un autre club, dans deux ans, vous le rachètera avec une plus-value.
Alors qu'est-ce que vous attendez de ce mercato? Pensons aux grands clubs, allez, français, évidemment. Marc, je vous garde pour la fin.
Oui.
Je vous garde pour la fin. Alors, je me tourne vers Naïm. Pensons au PSG.
Oui. Bah, le PSG, il a des lacunes, il a des chantiers, donc il va.
Est-ce que Neymar reste, part, hein, parce que ça pourrait rentrer dans le mercato, ou Mbappé peut-être?
Ou Mbappé, non, vous avez bien fait de dire Mbappé, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est au moins autant incertain sur l'avenir d'Mbappé que sur celui de Neymar. Donc s'il y a vente, ça sera très grosse vente, et il y aura forcément gros achats derrière, parce que Paris a besoin de se renforcer sur tous les secteurs. On sait qu'il a besoin d'au moins un milieu de terrain, qu'il a aussi besoin d'un défenseur central, parce que Kerrer et Kimpembe,
souvent, ils
n'achètent
pas ce dont ils ont besoin, ils achètent autre chose.
Ça, c'est la gestion de l'effectif, effectivement.
On attend
évidemment deux à trois gros renforts du PSG. Quand on connaît les ambitions du PSG et le standing des joueurs qu'ils achètent, on peut s'attendre à des stars, il y a des joueurs. On va casser la tirelire.
Gilles. Je connais un peu Leonardo du temps où il était joueur et de son premier passage de dirigeant au PSG. S'il revient, c'est comme quand Zidane revient sur le banc du Real Madrid. C'est qu'il a des garanties en termes de recrutement. Et là, vous pouvez penser que si Leonardo revient, ce qui semble être le cas avec un poste à très haute responsabilité, ni Mbappé ni Neymar ne partiront, qui viendra pour gagner la Ligue des Champions. Si Leonardo revient, c'est pas quelqu'un qui revient pour une aventure.
Il vient pas, Gilles, moi je suis d'accord qu'il revient pas pour une aventure, mais il revient pas non plus avec des types qui mettent des points d'interrogation sur leur avenir tous les deux mois.
Non, mais avec Leonardo, les points d'interrogation vont être réglés dans les trois semaines.
Ah,
mais
il peut aussi arriver faire une réunion avec les mecs, que les mecs te disent, bah, je sais pas, je vais réfléchir, et qu'ils disent, bah, on les vend.
Je crois pas, parce que Leonardo convaincra Mbappé et Leonardo convaincra son compatriote.
Il viendra
avec une star. Alors, est-ce que ce sera Griezmann ou De Ligt? Qu'un profil plus défensif peut d'abord intéresser le PSG. Mais Leonardo a un côté chevaleresque. Leonardo aura envie que le PSG gagne, séduise. Donc, je pense que du point de vue de Leonardo, encore un attaquant ne symboliserait pas empilage, mais symboliserait football panache.
Alors Marc, face au PSG, on pense toujours évidemment avant que la saison ne commence au MPSG. Vous aussi, vous cochez les dates sur votre calendrier.
Oui, c'était une époque, ça. Mais non moins.
Mais peut-être de nouveau, justement. Qu'est-ce qui peut se passer du côté de Marseille? Rappelons-le, équipe qui n'est pas européenne.
De Marseille, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et je vous avais déjà dit, je suis très inquiet pour le mercato marseillais parce qu'il faut déjà dégraisser au niveau de la masse salariale, savoir ce qui va se passer sur pas mal de joueurs. Là, on est période de vacances, ça part un petit peu dans tous les sens.
Voilà,
il y a des rumeurs. Après, on sait très bien que si l'Olympique de Marseille doit faire des choses, ils doivent le faire très rapidement et ne pas tarder. Les deux derniers exercices, quand on prend Mitroglou, quand on prend certains joueurs, c'était voué à l'échec. Marseille ne peut pas se permettre de faire ça. Donc aujourd'hui, Zubizarreta revient sur le devant de la scène. On a vu depuis quelques semaines, il y a quelques semaines, on a vu qu'il était là, puisque pendant l'ère Rudy Garcia, on l'a jamais vu. Donc c'est très bien, il est de retour. Maintenant, le chantier est gigantesque et c'est pas que un ou deux joueurs par. C'est vraiment, je pense qu'il faut entre 7 et 8 joueurs, il faudrait qu'il y ait une dizaine de joueurs qui s'en aillent. Et ça, c'est Strootman qui balance son état d'âme. Moi, on m'a dit de dégager du club. mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. C'est que quand un club ne veut plus, il fait ça.
C'est une obligation.
Il peut être mauvais, pas mauvais, c'est pas grave. C'est que là,
maintenant, on rentre
dans des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est même plus le terrain qu'il faut gérer, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui va se passer à l'intérieur du club. Ça va être très compliqué.
Il va falloir vendre et vendre cher. Donc vendre cher, ça veut dire vendre les joueurs bankable. Aujourd'hui, qui est bankable à Marseille? Vous avez Camara, Lopez, Thauvin.
Et Luis Gustavo, peut-être?
Non, Luis Gustavo, il est beaucoup moins bankable qu'il y a un an. Donc ça veut dire que...
Si on le fait jouer à son poste, peut-être
Camara,
qu'il peut être bankable.
Camara ne partira pas parce que Rudy Garcia ne veut pas le partir. Il était prolongé, c'est le futur défenseur crack de l'OM. Thauvin, si vous écoutez sa communication sur les derniers
il
mois,
veut rester.
Oui, enfin c'est ce qu'il dit. Je pense que s'il y a proposition, il partira. Mm-hmm. Il y a le cas Maxime Lopez. Si grosse offre, Lopez pourra s'en aller.
Gilles.
Le problème, moi j'ai de l'estime pour Rudy Garcia, malgré les échecs ultimes. Mais néanmoins, le risque quand il y a un recrutement qui est fait par une seule personne, avec des agents qui sont très proches de cet entraîneur, c'est que quand l'entraîneur part, les successeurs trouvent ce qu'on appelle des cadavres dans le placard, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et là, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. C'est-à-dire que très franchement, les salaires qui ont été distillés négociés à ce moment-là font que les joueurs qui sont très bien, en plus, Marc, c'est aussi le cadre de vie marseillais, fait aussi que vous êtes bien à Marseille. Non, mais c'est une ville extraordinaire. Il y a la des supporters. Vous vous dites j'ai un contrat. Franchement, j'ai pas envie d'en partir. Mmh. Donc il va falloir être persuasif pour qu'il parte.
Il y a un élément à prendre en compte, c'est l'arrivée de Villas-Boas. Villas-Boas n'arrive jamais dans un club pour jouer avec des joueurs de seconde zone. Donc même s'il va falloir vendre très cher, il vient pas pour jouer avec des pimpins la dernière pluie.
Ça va être passionnant donc ce mercato. Un petit tour aussi, on va le faire. C'est du côté de l'OL. L'OL qui a changé son organigramme. Juninho arrive comme directeur sportif. Il est arrivé avec son entraîneur, un certain Silvinho. En tout cas, le Brésilien, il a tenu sa conférence de presse. Vous en souvenez sûrement, il a été très 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 bavard. On a extrait quelques secondes où il dessine les contours du mercato lyonnais.
On n'a pas la confirmation des joueurs qui vont partir. Bien sûr qu'il y a la possibilité de perdre un grand joueur comme Ndombele au milieu du terrain, de perdre d'autres joueurs. Mais je pense que la base, on va garder. Notre priorité, c'est la défense centrale parce que on a Marcelo de Neuer, Morel qui va partir. Donc, on va se concentrer sur la défense centrale. Moussa Dembélé, pour moi, c'était une très belle surprise. Terrier aussi. Sans parler de Petit Aouar qui c'est vraiment techniquement assez incroyable. Qui j'espère bien, président. Bon. Qui on va pas recevoir des grosses propositions par rapport à lui parce que ça commence à faire trop. On a cette base technique et on va continuer à garder ça.
C'est ça, Gilles. Pendant un mercato, un directeur sportif ou un entraîneur font des prières parfois pour pas qu'on leur fasse des belles propositions sur un joueur.
Alors oui, mais j'ai été très surpris du nombre de noms cités là. C'est-à-dire que
tout le monde,
oui, mais
on a coupé un peu.
Mais pour une sorte de en politique, on dirait une sorte de discours de politique générale. Je trouve que là, il s'était avancé sur des profils, faisant des heureux, quelques mécontents. C'est un peu risqué.
C'est Jean-Michel
parce
Lasse
que
qui a commencé.
Oui, mais d'un nouveau dirigeant qui arrive, j'aurais préféré, même si c'est très bien pour les journalistes que nous sommes, mais j'aurais préféré un peu plus de secret dans les négociations, dans les discussions. Là, je trouve qu'il fait tapis directement, j'étale mon jeu, les autres clubs intéressés vont se régaler pour faire monter les enchères.
Marc.
C'est surtout dans ce genre de déclaration, pour l'avoir vécu, c'est que il pose les jalons, j'arrive, la défense centrale, c'est comme ça, j'en veux plus. Lui, sachez que je le veux, lui, je le veux. C'est-à-dire qu'on impose déjà quelque chose. Alors, j'espère, ou moi, à l'époque, on m'a dit ouvertement, on prend l'exemple de Toulouse, Giresse me recrute, Giresse est licencié, tu as un homme de Giresse, on te veut plus. Non, voilà. Donc, c'était l'exemple. Donc là, il se peut que lui ait attrapé les joueurs avant, ou alors ils vont la prendre sur la conférence de presse. Et quand ils sont en vacances, que moi, je me suis retrouvé une fois en vacances, j'ai appris que mon nom était mis sur la liste de transfert, alors que j'étais en vacances et je devais rentrer tranquillement chez moi. Donc, c'est pas grave, c'est le football. Mmh. Maintenant, c'est vrai que ils ont quand même une base et un noyau très important avec des milieux de terrain et des joueurs qui pour moi sont des références aujourd'hui.
Il parle de Mendy qui effectivement on annonce du côté du Real Madrid. Ouais. Quel autre bon joueur ou grand joueur ou futur grand joueur de l'OL risque-t-on de voir partir
Tanguy Ndombele, Nabil Fekir, Memphis Depay. Tanguy Ndombele, on sait que Olas l'a mis quasiment sur la liste des transferts dès le mois de décembre. Il disait à la suite d'une réunion de l'OL Group, on peut imaginer que si il y avait une proposition à l'époque de 50 millions, il avait dit on peut imaginer que l'été prochain ça sera au moins du niveau de Pogba. Donc ça veut dire 100 millions. Donc lui il va ramener de l'argent. Nabil Fekir, il a un bon de sortie. Alors évidemment il ira pas Liverpool parce qu'avec l'épisode de l'année dernière mais on peut supposer que Tottenham a priori est dans le lot même pour Tanguy Ndombele. Et puis Memphis Depay, on peut pas dire pendant deux ans Memphis Depay il est irrégulier, il est incertain et puis il balance un scud à l'entrée. l'entraîneur. Alors l'entraîneur, il répond, le président, il s'y met pour le voir prolonger.
Il restera pas.
Donc il va pas rester. Moi, quand Marc dit ouais, mais Juninho, il arrive, il impose des trucs. Bah ouais, mais il est directeur sportif. On peut pas reprocher à Aulas pendant des années de faire le recrutement.
C'est
de reprocher au directeur sportif d'imposer des trucs. Il a raison de dire sur qui il compte et sur qui il compte pas.
Mmh. En tout cas, il le dit publiquement. Par contre, ce qu'on avait entendu l'année dernière, c'est que on se souvient qu'en Angleterre, et notamment, je me souviens de déclarations d'Arsène Wenger qui disait, il vaudrait mieux qu'il y ait une adéquation entre le moment du mercato et les débuts de saison, disons. Or, en France, j'ai les dates ici, hein, 11 juin, donc c'était après la fin du championnat. Mais par contre, jusqu'au 2 septembre, le championnat aura repris pratiquement depuis un an. Alors qu'on avait entendu plus ou moins du côté de Noël Le Graët et des dirigeants de la LFP dire ça serait plutôt bien d'avoir des dates adéquates. Alors l'Angleterre, ça s'arrêtera le 8 août. En Italie, ça ira jusqu'au 25 août. C'est à peu près le moment où ils recommencent à jouer. En Allemagne et en Espagne, c'est jusqu'au 2 septembre. Qu'est-ce que vous pensez de ces dates d'abord un peu disparates, mais surtout parce que, par exemple, les mercatos ne commencent que le 1er juillet pour ce qui est de l'Allemagne et de l'Espagne. Et de ces dates disparates, et surtout, Marc, par exemple, qu'on commence un championnat un 8 ou 9 août, et on ne sait même pas si un mois après, l'effectif sera le même.
C'est une erreur monumentale pour moi, ça veut rien dire. La seule chose
en France,
ça intéresse...
on ne prenait pas ce chemin à l'anglaise, non, finalement ?
Non, mais je pense que ça peut être intéressant de... Le championnat démarre, on a fait nos courses avant. Après, on peut avoir un joker, un médical, ou on peut avoir quelque chose.
Ou si on se qualifie, si on passe les barrages ou pas.
Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est simplement financièrement, on se dit, ben finalement, si on décroche l'Europe dans le tour de poule, ceci, cela, je vais acheter 2-3 joueurs. En fait, on suppute des choses. Rappelez-vous, à une époque, Lille avait pensé que finalement, si on fait la Ligue des Champions, le tour préliminaire, on fait ça. À l'arrivée, ça s'est pas passé, et puis ça a été catastrophique pour eux. Donc, un jour, à un moment donné, il faut juste régulariser et faire le championnat démarre, c'est fermé, on arrête tout.
Pour toute l'Europe qui passe son temps à s'échanger les joueurs.
Oui, Gilles. Mais Annie, si on va au bout de votre logique, il faut aussi supprimer d'urgence le mercato hivernal.
Il fausse totalement les compétitions. Je suis d'accord.
Il peut y avoir des sommes d'argent injectées.
Souvenez-vous de Saint-Etienne. Hein, je me souviens, il y a une année, Saint-Etienne, entre le mois de septembre et le mois de janvier.
Et Monaco cette saison.
Et ça change tout.
Et Monaco cette saison.
Ça leur a pas porté chance.
Non, mais ils se sont maintenus quand même. Mmh. Ça change les données. Et c'est évident qu'aujourd'hui, le football est un sport marchand. Ouais. C'est le business qui règne. Et vous avez les agents.
Vous avez entendu Youssou N'Dour chanter Money Money.
Et vous avez les agents qui touchent des commissions extraordinaires, donc qui multiplient les mouvements.
Enfin, c'est quand même une erreur de comparer le marché français et le marché anglais. C'est que les Anglais, ils peuvent arrêter le mercato le 8 août parce que même le dernier, il a les moyens d'acheter pour 200 millions. En France, c'est pas le cas.
C'est aussi
pour ça que ça traîne très tard. C'est que sur la dernière semaine, l'essentiel des clubs français font leur effectif là-dessus.
C'est une histoire de gros sous. On est bien d'accord.
Ouais. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Est-ce que l'oxygène des Pyrénées conjugué à la fraîcheur d'une nuit de montagne à 1000 mètres d'altitude pourra doper les Bleus ce soir? Alors doper, hein, dans le bon sens du terme, vous m'aurez compris. En tout cas, les Bleus jouent ce soir sur la pelouse synthétique d'Andorre la Vieille, hein, petite ville, petite bourgade dans les Pyrénées. Olivier Pron hier nous disait qu'il y faisait pas chaud, il devrait y faire autour de 5 degrés, il y avait même de la neige fondue, hein, c'est ça qui est tombé.
Oui, c'est ça, exact.
Hein, en fin de journée, bon, bah, ça les change de la chaleur, dans tous les sens du terme, de Konya. Alors les statistiques, en tout cas, sont en faveur de cette équipe de France qui a gagné 17 fois sur 18 quand elle a rencontré l'équipe de la Principauté d'Andorre. Alors nous l'avons vu, hein, le statut de champion du monde n'est pas un bouclier à toute épreuve. On verra donc ce soir. En tout cas pour Andorre, eh bien c'est une ville, une principauté coincée entre la France et l'Espagne. Il y a 75 000 habitants à peu près, et c'est l'occasion, eh bien, de recevoir des hôtes de marque, bien sûr, dans cette toute petite enceinte où les joueurs, de Andorre sont des amateurs. Ce sera une fête, explique le porte-parole de la Fédération Andorrane. Il s'appelle Xavi Bonnet et il est au micro de France Bleu Roussillon.
C'est une sorte de chance, comme une loterie, parce qu'on n'est pas habitué. Pas toujours on joue contre les champions du monde. Alors la dernière fois, on jouait contre le Portugal, qui venait d'être champion d'Europe. Pour les Andorrans, pour le foot andorran, pour le sport andorran, c'est un événement, parce qu'on va en profiter vraiment de cette expérience. On va essayer d'arriver à la dernière minute de jeu avec les possibilités de prendre quelque chose. On sait vraiment de la différence entre la France et nous, puisque voilà, la plupart de nos joueurs, ils sont amateurs. Mais pourquoi pas? On a battu des équipes avec des professionnels. On rêve. C'est vrai que rêver est gratuit, non? Mais on rêve, mais en tout cas, même si on gagne pas les points, on veut faire une bonne image, un bon travail, que les joueurs de la France et les supporters de la France sachent que ici en Andorre, c'est quand même difficile de pouvoir s'emporter les 3 points.
Alors, on rêve, on parle de loterie, on parle d'expérience, et on aimerait bien avoir une bonne image. Alors, plaisir au public, hein, plaisir aussi pour les amateurs, mais est-ce que c'est bien sérieux sur le plan sportif, Naïm ? Parce que finalement, on voit tous les groupes des éliminatoires, on voit bien les gros poissons et puis on voit bien les petits poussés et qui souvent et... se prennent, comme on dit dans notre jargon, des valises.
Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi des fois humiliant et finalement contre-productif ?
C'est évidemment contre-productif parce qu'aujourd'hui, au bout de 2-3 journées, vous savez qui est qualifié pour la compétition. C'est exactement ça. Et moi, je sais ce que vous... Ce que vous impliquez quand vous donnez cette question, est-ce qu'on ne devrait pas faire un ou deux pré-barrages comme en Afrique, comme en Asie, mais
ou
c'est
comme
impératif.
Dans les ligues Europa, ou
c'est impératif
des
parce
champions.
Que aujourd'hui, on est dans une confédération où vous avez 10-12 grosses nations, hein, et puis derrière le reste. Vous avez des éliminatoires avec 5-6 équipes, vous savez les deux qui vont se qualifier.
Est-ce que sur le plan sportif, par exemple, un France-Albanie, un France-Kosovo, un France-Andorre
Alors le Kosovo, attention, c'est pas mal. Le Kosovo, ça ressemble à quelque chose sur les derniers matchs.
Oui, et vous avez, aussi, je crois,
Quand on parle du Luxembourg, de l'Andorre, de Liechtenstein, de Saint-Marin, de l'Estonie, c'est des équipes qui depuis 50 ans font leurs éliminatoires avec nous, se sont jamais qualifiées pour rien. Donc quand on dit, oui mais c'est à force de côtoyer les grosses équipes qu'elles vont progresser, bah non, c'est pas vrai la preuve. Donc on fait un ou deux tours de pré-barrage, on élimine ceux qui méritent d'être éliminés, et puis après on fait des éliminatoires un petit peu plus costauds, un petit peu plus, avec beaucoup plus de suspense, même si c'est 4-5 équipes.
Gilles ?
Je ne suis pas du tout d'accord.
Eh ben, t'es pas d'accord.
L'universalité du foot, l'échiquier européen, le foot c'est quand même la traduction sur le terrain d'une réalité, d'une conscience politique de pays nouvellement arrivés ou pas. Effectivement, prenez l'exemple du Kosovo qui est sur une super série, qui n'est pas encore éliminé d'ailleurs.
Je pense à l'Islande aussi, hein, qui a été une très belle surprise.
Donc si on va au bout
d'habitants,
oui, si on va au bout de cette logique de choix, alors lesquels il faudrait éliminer en fonction de quoi ?
Ah bah, en fonction du classement UEFA, tu fais un pré-barrage de 1 ou 2 tours de barrage.
Simplement, Gilles.
Gilles, est-ce que tu trouves normal?
C'est vrai qu'on n'aurait pas souvent un France-Andorre.
Est-ce que tu trouves normal qu'une équipe comme le Kosovo, qui doit avoir 2 ans d'existence, a déjà gagné plus de matchs que des équipes comme l'Andorre, comme le Saint-Marin, comme le Liechtenstein, qui sont là depuis 20, 30, 15, 50 ans?
Oui, mais là, vous légitimez ce qu'on reproche au club, c'est-à-dire les ligues fermées avec des têtes de série. Non, moi, je suis pour que tout le monde ait sa chance. Et un jour, des petits pays émergeront. Un jour, il y aura des exploits.
Un jour.
Ça fait, bah oui, mais ça fait partie de la légende du football. Non.
Effectivement, l'Islande était une bonne leçon à ce niveau-là, puisqu'ils ont participé à une Coupe du Monde et à un Euro. Marc, une question, c'est plutôt sur le plan sportif, voire santé. Ce soir, on va voir ces joueurs de l'équipe de France, ils vont jouer sur un terrain synthétique, qui, dit-on, à en croire nos confrères qui sont sur place et pas d'une excellente qualité. On est en fin de saison, ils sont fatigués. Est-ce qu'il y a un risque de blessure en plus ? Sur des petits terrains, sur des petites infrastructures.
Ça paraît difficile. Après, la plupart du temps,
de se blesser ou d'y jouer.
Non. Les conditions sont comme ça. En Écosse, en première ligue écossaise, il y a des terrains qui sont synthétiques. On avait Lorient en Ligue 2, on a des terrains qui sont comme ça, donc semi-synthétiques. Mm-hmm. Aujourd'hui, certains joueurs, s'ils ne sont pas prêts ou ne veulent pas forcément, disons, ça va, on sait que c'est comme ça, donc on s'adapte. Donc depuis quelques semaines, où certains,
fois,
travaillent sur synthétique. Il y a un travail qui est fait sur synthétique aussi. Donc l'avantage aussi, Annie, qu'est-ce qu'il faut se dire ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un terrain synthétique ou alors un champ de patates en pelouse ? Parce que non, mais c'est toujours terrible. Si on fait
vrai,
ça à une époque,
aussi les champs de patates.
Eh ouais, parce que si, en fait, si on avait
durant la Coupe de France,
terrain,
notamment.
Voilà, un terrain en pelouse, sûrement il n'aurait pas été. Eh ben, on aurait dit, ah mais c'est normal, le terrain n'est pas bien. Donc là, eh ben, on doit s'adapter. On est champion du monde en titre, quoi qu'il arrive. On peut pas se réfugier derrière. Oui, vous comprenez le ceci, le cela. Ben, il faut jouer le match. Vous savez, aujourd'hui, Annie, moi, à mon époque, il y avait 2 sortes de crampons. Aujourd'hui, il y a 30 sortes de crampons. Donc, votre sponsor, il va vous équiper spécialement avec la talonnette, avec de l'air, de la bulle. Je vous assure, Annie, c'est très impressionnant. Donc aujourd'hui, c'est vrai, vous allez jouer un match, vous ne jouez pas toute une saison, vous allez jouer un match. Et toute la nouvelle génération aujourd'hui, tous les gamins de 12 à 18 ans évoluent même au centre de formation de tous les clubs, ils évoluent sur des synthétiques.
En tout cas, espérons que les 3300 spectateurs qu'on nous promet ce soir, dans cette ambiance donc un peu feutrée, eh bien, écouteront avec respect la Marseillaise. La Marseillaise, vous vous en souvenez sûrement, a été sifflée à Konya par le public de Turquie, les fervents supporters turcs. Alors un fait qui a suscité certains commentaires, et évidemment, eh bien, le président Macron s'en est ému. Il s'était ému via un message que l'hymne français ait été sifflé, et il a trouvé cela inacceptable, l'a fait savoir, comme il a dit au président de la Fédération, Noël Le Graët, qui lui n'a pas voulu estimer qu'il y avait un incident. Il a dit les Bleus n'ont pas été bien accueillis par un certain nombre de supporters, très bien par d'autres. C'était une partie de la tribune et pas tout le monde. Gilles, est-ce que, selon vous, Noël Le Graët, qui était sur place, avait raison et où on a peut-être vu beaucoup d'excès de la part de ce public chauffé à blanc samedi soir?
Alors, j'aime beaucoup Noël Le Graët, mais là, je suis pas d'accord avec lui. Mais en fait, il est obligé, hélas, de prendre cette position parce qu'il y a eu une ingérence.
Les deux sont peut-être obligés de prendre leur position respective, sauf que même le président Macron.
Ça fait beaucoup de positions du président Macron par rapport au football. Et donc, comme les instances, quelles qu'elles soient, sont allergiques à cette ingérence du politique dans le domaine footballistique, Noël Le Graët sent le danger, sent que la France va être marginalisée, voire éventuellement sanctionnée un jour. Donc il est obligé d'atténuer la position présidentielle. Mais sur le fond, je sais que Noël Le Graët trouve inacceptable, tout comme moi, tout comme tous les Français, que la Marseillaise soit sifflée. C'est pas possible.
Mais on se doit, dès le départ, quand on est joueur de l'équipe de France, on vit ça, on se dit, on va passer une mauvaise soirée, donc il faut vite se bouger. Après, les déclarations des uns des autres, il faut occulter tout ça.
Ça donnait le là du match.
Que dès le départ, mais ça vous donne juste l'ambiance qu'il peut y avoir. Alors certes, on a dit oui, mais des joueurs vont saluer, mais ça, ils le font tout le temps. Oui, ils se sont indignés, ils nous passaient devant, on s'est chauffé. Ça, il faut oublier. À un moment donné, quand il se passe ça, ce genre de choses, que c'est sifflé, tu sais quoi? Il va falloir que tu leur marches dessus et que tu leur montres que tu es champion du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'effet contraire. Et aujourd'hui, on nous sort. Ah, mais ça nous a perturbé. Arrêtez, les gars. Vous jouez à Manchester, vous jouez dans les plus grands clubs, ils vous sifflent à tout l'un. Et là, ça vous perturbe. S'il vous plaît, soyez gentils quand même avec ça.
Naïm.
Est-ce que le souci, c'est pas d'avoir organisé un match à Konya finalement?
C'était fait exprès pour eux.
Et pas à Istanbul. C'était fait exprès, évidemment.
De ce match au piège vendredi soir.
C'est pour ça que sanctionner la Turquie, la fédération turque, je veux bien, mais ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables.
Ils ont parlé de sanctions, mais effectivement, de respect pendant les hymnes, c'est toujours.
Vous êtes responsable du public, Naïm.
T'es responsable du public, mais t'es pas responsable du contexte géopolitique.
De la région où tu es aussi, tu vois.
Voilà. C'est quand t'es à Konya, t'as 300 bornes de la Syrie, quoi. T'es pas à Istanbul. Donc, à un moment donné, il fallait peut-être organiser le match à Istanbul. Il y a je sais pas combien de clubs d'Istanbul en première division. Ils avaient des terrains, voilà. Oui, mais à ce moment-là, tant pis. Mais ils avaient été sifflés, voilà. Mais là, tu les emmènes.
Non, mais les Turcs préfèrent jouer en province. Les Turcs préfèrent jouer en province parce qu'ils ont plus de soutien, justement. Donc après, on peut qualifier ça de piège. Mais du point de vue turc, c'était une manière d'avoir un soutien indéfectible.
En France aussi, ils préfèrent jouer en province, ils sont toujours au Stade de France.
Oui, mais ça, c'est des choix de la fédération. La fédération turque, elle peut jouer où elle veut.
C'était un choix justement pour soutenir et ne pas siffler son propre joueur qui joue au Beşiktaş alors que vous êtes supporter de Galatasaray. Mais en tout cas, c'est vrai aussi que durant cette soirée, enfin, on a suivi le match tous ensemble, on a bien vu que, par exemple, dès qu'un Français avait le ballon, il était sifflé. C'était plus contre l'adversaire, et malheureusement l'hymne français s'est retrouvé otage aussi de ce côté adversaire.
Oui, mais ça, Annie, pour moi, il y a eu la Marseillaise, mais après ça fait partie entre guillemets,
du moment de respect.
Non, oui, mais je veux dire, ça fait partie du spectacle sportif que de potentiellement, tant que ça ne dépasse pas les limites, siffler l'adversaire. En France,
on a eu l'impression que le stade sifflait pendant presque tout le match.
Mais c'est vrai, mais ça fait partie de ces atmosphères surchauffées qu'on connaît en Grèce, en Turquie, qui font partie du contexte footballistique. Je suis assez d'accord avec Marc. Si nos champions du monde deviennent sensibles comme ça aux ambiances dans les stades où ils jouent, là, ça va induire une vulnérabilité de mauvaise aloi.
1994, équipe de France militaire avec Roger Lemaire, on va pour qualifier pour la Coupe du Monde militaire la session d'après, donc 95. Donc nous, on est la session 94. On joue en Turquie. Ça a été une horreur. On a été insultés, ça a été sifflé. À l'arrivée, on a gagné 2-1 là-bas.
A fait l'effet inverse.
Mais c'est très particulier. C'est une ambiance. C'était très très chaud. Mais ça fait partie du but, quoi, aussi.
Mais ils avaient respecté la Marseillaise, là, les militaires.
Rien du tout. Bon. Ah non, c'est parti dans tous les sens.
En tout cas, ce qu'il y a d'amusant, c'est cette dépêche aujourd'hui qui nous signale que les responsables turcs sont furieux parce que là, ils vont jouer en Islande et qu'ils ont reçu un traitement insultant. Alors, ils réclament parce qu'ils ont attendu à Reykjavik, donc dans la capitale de l'Islande, et ils ont attendu plusieurs heures au guichet de contrôle des passeports.
C'est pas les plus jeunes, ils s'y standaient en plus.
Donc, ils étaient pas très contents et finalement, comme quoi, on peut voir midi à sa fenêtre et tout le monde peut réclamer des choses.
Ça a fait une polémique en Islande aussi qui s'est justifiée en disant...
Mais c'est des gentils, les Islandais.
Mais oui, bien mais sûr. Justement, ils ont été obligés de dire, mais c'est les règlements. Les gens qui viennent, par exemple, de Turquie, on doit fouiller les bagages, c'est le règlement. Si nous ne l'avions pas fait, ça nous aurait été reproché.
Bon, c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, merci aussi à Laurent Salerno qui était donc à la réalisation et Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission. Et on vous dit à demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.